RMC, les grandes gueules.
On s'en fout. On s'en fout pas.
Bonjour Anaïs Inès Sainz.
Bonjour les GG, bonjour à tous. Avez-vous envie, les GG, êtes-vous prêts à connaître le salaire de votre voisin de bureau? Les entreprises sont de plus en plus transparentes, en tout cas sur les grilles de salaire. Est-ce qu'on s'en fout ou pas, Joël?
On s'en fout pas.
Jean-Loup?
On s'en fout pas.
Bruno?
Non, on s'en fout pas.
Une directive européenne doit entrer en vigueur au mois de juin pour obliger les entreprises à donner des informations sur leur politique en matière de salaire. Des entreprises qui s'y mettent déjà, donc selon les informations de RMC, 20% ont pris la décision de publier des grilles ou des fourchettes de salaire dès cette année, d'après un baromètre du groupe de recrutement LHH. Autre indication de ce baromètre, 40% des entreprises prévoient désormais une enveloppe pour réduire les inégalités de salaire. Pour rappel, les femmes gagnent encore aujourd'hui 14% de moins que les hommes à temps de travail identique. Pourtant, Joël?
Moi, je suis pour qu'on puisse parler de son salaire librement au travail. Enfin,
t'as pas besoin d'une directive européenne.
Oui, mais est-ce qu'il faut obliger à la publication? Parce
que c'est... Alors, je crois pas que ce soit la publication de chaque. Non, je pense que
c'est égal.
Ouais, exactement. Donc, il y aura pas non plus
de transparence totale.
Mais c'est bien d'avoir un repère et de se dire, ok, ben en fait, là, je suis à ça, il y a ça, et qu'est-ce que je peux faire pour arriver à ça?
Une grille salariale.
Oui, bien sûr. Mais on sait très bien qu'en France, il y a quand même ce tabou sur l'argent, sur les salaires. On a l'impression qu'il faut tout cacher. Et moi, je trouve que ça devrait être beaucoup plus ouvert. Donc, je suis contente.
Bruno.
Ouais, de toute façon, moi, j'ai toujours été transparent là-dessus. Je pense qu'on peut. Mais il faut pas que ça devienne une obligation, en fait. Déjà, la plupart des entreprises, des grandes entreprises, moi je vois SNCF, chaque année, nous font un bilan en expliquant à peu près, tu vois, dans le bilan social, en fait, dans tout le bilan social de CSE, tu trouves ça. Moi, je vois pas en quoi ça deviendrait une obligation.
Alors.
Non, c'est un truc qui me paraît normal. Après, c'est vrai que nous, on n'a pas cette mentalité en France, où l'argent est tabou. Aux États-Unis, à la machine à café, ils parlent de religion et de leur salaire. C'est comme ça que ça fonctionne. Moi, j'ai pas de travail là-bas. Ils m'ont toujours expliqué. T'es la machine à café, le mec qui va te parler de Dieu, et derrière, il va te dire, moi, je gagne tant, je fais tant, machin. Nous, en France, c'est hyper tabou. Parce que moi, je pense que ce qui est tabou, c'est pas celui qui gagne pas beaucoup, c'est celui qui gagne beaucoup. Et tu sais jamais pourquoi et jamais comment le mec peut gagner.
Puis ouais, mais parce qu'il y a la jalousie aussi.
Entretenue par les patrons qui s'amusent après à diviser les ouvriers entre eux, en fait.
Non, ben Bruno a dit ce que je vais dire, mais quand même une directive européenne, dites-vous. Oh, c'est intéressant. Déjà, ils ont que ça à faire de leur journée. Moi, je suis toujours un peu surpris de cette machine à pondre des directives. Et ensuite, ben justement, on pourrait l'appliquer à Ursula von der Leyen, puisqu'il y a quelques années, quand je parlais de ses liens avec le cabinet de vaccins Pfizer, on me traitait de complotiste, comme pour les dossiers Epstein. Et puis finalement, le New York Times, quand même journal de référence aux États-Unis, a amené toutes les preuves.
Quel rapport, là? On s'éloigne, non?
Eh ben, qu'on applique à Madame von der Leyen, qu'on regarde ses comptes d'un peu plus près. Voilà, tout simplement.
Il paraîtrait que Gervier gagne plus que toi, Anaïs. Moi, je dis ça comme ça.
Quoi?
Ok. On enchaîne.
Bon, les GG, André Santini, écoutez bien. 85 ans, est hospitalisé et candidat pour un 8e mandat de maire, où ça, à Issy-les-Moulineaux. Est-ce qu'on s'en fout ou pas, Bruno?
Non, on s'en fout pas du tout.
Jean-Loup?
On s'en fout pas.
Et Joël?
On s'en fout pas.
Et ce, donc, en dépit de ses récents problèmes de santé, explique le Parisien. Oui, André Santini, élu il y a 46 ans dans la ville des Hauts-de-Seine, a annoncé sa candidature depuis l'hôpital où il est soigné en ce moment en raison d'une mauvaise chute et de complications médicales. Il explique donc à nos confrères refuser de laisser la main à un potentiel successeur, même s'il se déplace en fauteuil. Joël, pourquoi tu t'en fous pas?
Écoute, moi je pense qu'il y a beaucoup de maires qui pensent que la ville leur appartient. Et peu importe l'état de santé qu'ils ont, ils peuvent occuper le siège. Bah, il peut se présenter, il est libre. Mais j'espère que, je ne sais pas comment on dit, ici les Moulinois, je ne sais pas comment ça se dit.
Je crois les lycéens.
Lycéens, voilà. J'espère que les lycéens vont élire quelqu'un en bonne santé.
S'ils le trouvent très bien.
Mais attends, s'il le trouve très bien, excuse-moi, quand t'es malade, tu peux gérer une vie telle que ici les Moulineaux? Enfin,
il dit qu'il gère les affaires courantes de.
Mais les affaires courantes, non. Mais on a besoin de quelqu'un qui soit. Mais qu'est-ce que. Mais je vous jure,
Jean-Loup.
Bah, en démocratie, il y a qu'un seul souverain, c'est le peuple. Et en effet, c'est aux citoyens de la commune de décider si pour eux c'est rédhibitoire ou non. Voilà, ça veut dire.
Donc toi, t'es pas pour la limitation de mandat dans la durée.
Moi, je suis contre les peines d'inéligibilité, contre les limitations de mandat. C'est au peuple de décider. Si le peuple d'ici les Moulineaux considère qu'il est trop vieux, il ne vote pas pour lui. Si par contre, ça ne leur pose pas de problème, qu'il vote pour lui, ça veut dire décider.
Bruno,
ici ou là-bas.
Oh, joli.
Mais Après, ici, c'est ici. Sûr que c'est les gens qui vont voter, qui vont décider. Après que tu laisses quelqu'un faire autant de mandats, je trouve ça un petit peu anachronique. Parce qu'en fait, ça veut dire que le mec, il a pris la mairie dans les années 80. La ville lui appartient. Et aujourd'hui, il est mourant. Parce que bon, ça fait comme, enfin, il est mort, il s'est juste pété la gueule. Mais enfin bon, ça fait un paquet de temps qu'ils l'ont pas santé. Vu. Et l'autre fois, ils l'ont vu, il était hyper amaigri sur un fauteuil roulant. Je sais pas comment tu peux gérer. Moi, ça me fait penser à un homme politique, enfin, un président de l'Algérie il y a quelques années, qui malheureusement était en France à New York en train de se faire soigner, et qui soi-disant était capable d'être réélu dans son pays.
Non, mais c'est vrai qu'il y a.
Au Cameroun, avec un président, Paul Biya, qui est. Ouais. Voilà, donc qui a été.
Le dirigeant soviétique. Ouais, je rappellerai Joe Biden, il n'y a pas besoin d'aller.
Ouais,
Joe
Biden.
Dans quel état il était aussi à la fin de son mandat. Mais,
c'est pas
représenté, il s'est pas. Oui, enfin, il a été poussé à ne pas se représenter. Mais enfin, il avait bien envie de se représenter. Mais il avait quand même envie. Puis au milieu de campagne, on a quand même dit que c'est plus possible. On ne pouvait plus cacher le fait qu'il était très malade. Donc, moi, j'adore qu'on donne des leçons toujours, tu sais, aux Africains, etc.
Santini est un peu le Biden français. C'est le Biden du
monde. Mais alors, ce qui est bizarre, c'est qu'il y a. Pour les présidents, ils ne peuvent pas faire deux mandats, enfin, trois mandats dessus. Ils peuvent en faire plusieurs, mais
les
pas
maires,
de suite.
C'est limité.
Et pour les maires, ce n'est pas limité.
Après, ça se comprend dans un village. Des fois, tu n'as pas de candidat. Donc, des fois, le maire, il peut faire ça pendant 50 ans.
Mais je pense que ce n'est pas les candidats qui pourraient manquer éventuellement.
Ici,
les
Moulineaux.
Mais
qu'ils
se présentent. Vas-y.
Là-bas, toi,
vas-y.
Il est encore faiseur de roi, Santini. C'est-à-dire qu'à mon avis.
Ils ont peur de lui.
Baisse dans le game.
C'est la grande fédération du 92.
Est-ce la fin du rêve américain? Les Français boudent les États-Unis de Trump. Les réservations dans le pays sont en chute libre. Hein. Moins 6% quand même l'année dernière, du jamais vu depuis le Covid. On s'en fout ou pas, Jean-Loup?
On s'en fout pas.
Bruno?
Non, on s'en fout pas du tout, c'est un crève-cœur.
Joël?
S'en fout pas.
57% des Français prévoyant un voyage aux USA en 2026 hésitent même à le maintenir selon une toute récente enquête Ipsos. Et ce qui risque de ne pas arranger les choses, c'est cette nouvelle règle que vient d'imposer l'administration Trump. Désormais, les visiteurs de dizaines de pays, dont la France, seront obligés de communiquer l'historique sur 5 ans de leurs activités sur les réseaux sociaux. Bruno, pourquoi tu t'en fous pas?
Parce que moi, j'avais prévu plus ou moins d'y aller en fin d'année. Là, j'avais peut-être une offre pour aller à New York pendant 4-5 jours. Et en fait, je vais pas y aller parce que, bah, déjà, c'était eux qui m'accepteraient pas, parce que moi, s'ils prennent mes réseaux sociaux sur 5 ans, donc, c'est pas très maga, hein. Moi, c'est pas très maga, mes réseaux sociaux. Donc, je pense que ça va être déjà un problème là-dessus. Puis, deuxièmement, moi, je vais pas, en plus, il y a plein de raisons, en fait, qui font que j'ai plus envie d'y aller. Il y a ce côté-là où, à un moment donné, ils vont fouiller dans tes réseaux sociaux. Je trouve ça, alors là, honteux. C'est pire que du McCarthy.
Donc, tu veux pas cautionner cela?
Non, déjà, pour commencer. Deuxièmement, il y a aussi un problème d'inflation. Aujourd'hui, la vie aux États-Unis est très, très chère. Nous, l'euro, il est à 1,10-1,20 par rapport au dollar. Sauf que, là-bas, c'est très très cher pour tout le monde, d'ailleurs, donc pour les Américains.
Surtout à New York.
D'ailleurs, c'est pour ça que je pense que Trump, il est en train de s'amuser à l'étranger, parce que s'il va un peu, il règle pas les problèmes chez lui, je pense qu'il va se faire allumer. Et puis surtout, moi, je n'ai pas envie d'aller en ce pays en ce moment, parce que j'ai l'impression que c'est pas l'Amérique dont je rêve depuis des années, où j'ai été plusieurs fois. Donc, je vais attendre qu'il s'en aille, je vais attendre que ça redescende un peu, peut-être. Et puis, je pense que ça va favoriser le Canada, hein, par exemple. Je pense que les gens vont aller au Canada, parce que ça sera moins cher.
Jean-Loup?
Non, mais moi, j'adore, c'est l'inconséquence française. Je voyais en effet des interviews de Français qui, justement, pouvaient jouer au Jean Moulin du 7e arrondissement en disant « Oh, nous n'irons pas aux États-Unis, Trump est un fasciste ». Mais les mêmes Français, d'ailleurs, on leur demandait du coup où ils allaient aller et ils ont dit bah, « Du coup, on va aller visiter la Chine ». Alors, oui, je trouve ça extraordinaire. C'est-à-dire la Chine, on dit « Trump, c'est vraiment horrible », alors que la Chine, qui est loin d'être une démocratie, elle enferme des centaines de milliers de Ouïghours dans des camps, elle stérilise de force les femmes, ou même les gens qui vont au pays du Maghreb, mais la répression des migrants qui viennent d'Afrique subsaharienne dans les pays du Maghreb, à côté, l'ICE aux États-Unis, c'est de la blague. Parce qu'en fait, les pays du Maghreb font mourir les migrants dans le désert. Ils les en renvoient dans le désert avec juste une petite bouteille d'eau, ce qui les condamne à une mort certaine. Et il y a plusieurs milliers d'Africains qui meurent dans le désert chaque année, relégués par les polices du pays du Maghreb. Mais ça ne dérange pas les Français. Le problème, c'est Trump.
Joël?
Moi non, j'irai volontiers. Maintenant, je crois que.
Je rappelle que ton chéri, tu l'as dit d'ailleurs, est américain,
oui,
enfin anglo-américain ou allemand-américain.
Allemand-américain.
Ouais.
Et oui, il surveille ma parole parce que effectivement, il surveille les réseaux sociaux. Donc, je suis pas censée critiquer Trump et pourtant, je vais le faire encore une fois, puisque il avait dit "Make America Great Again". J'ai l'impression que la mission est pas top, dans le sens où l'Amérique, c'est aussi un soft power, c'est-à-dire qu'il y a une part d'affection qu'on a tous pour les États-Unis, où on se projette, etc. Oui. Et qui, malheureusement, bah, il l'a entamé. Je pense que c'est pas définitif. Je pense que ça va revenir. Ça va revenir. Mais je veux dire, dans ce sens-là, je pense que la mission est pas remplie. Et effectivement, avec l'inflation, pareil, la mission est pas remplie. Donc, c'est pour ça que je dis que lui aussi, en fait, il joue sa carte au niveau international et qu'il faut pas sous-estimer aussi le fait qu'il soit peut-être un peu en danger dans son propre pays, enfin électoralement.
C'est un médecin ici que j'ai croisé dans les couloirs et qui m'a raconté qu'il était parti à un colloque et que pour la première fois, alors que ça fait 40 ans qu'il fait des colloques aux États-Unis d'oncologie, il s'était retrouvé une heure et demie coincé à la douane et où on a épluché sa tablette, son portable, à regarder ce qu'il avait fait, ce qu'il avait posté, quelles étaient ses publications, si elles étaient en lien avec des adversaires, collègues médecins, amis américains et autres. Quoi, ouais. Okay.